Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 20h50 avec Mohamed, Mathieu, Patrick. Une émission entièrement consacrée ce soir au retour de Pierre Lescure. Édition spéciale. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Pierre.
Alors, faut dire, on est hyper content de vous retrouver. Bravo.
Mais
pour
moi
ce
aussi.
75e Festival de Cannes. Vous étiez heureux?
Oui, franchement, et assez fier. Parce que franchement, c'était une très belle édition à plein d'égards. Et le palmarès a de la gueule, il est personnalisé. C'était bien, vraiment.
Bon, et vous êtes déjà passé au Molière, malgré tout.
Eh oui, parce que cette pièce dont on a si souvent parlé, la pièce de Shakespeare, Comme il vous plaira, créée cette saison à la Pépinière, a raflé tous les Molières du théâtre privé. Meilleur spectacle, meilleure mise en scène, meilleure comédienne, Barbara Schulz, et meilleur second rôle.
Et c'était une pièce recommandée par Pierre Lescure.
Non, mais franchement, c'est magnifique. Pour continuer d'y aller, je crois qu'ils jouent jusqu'à mi-juin à peu près. Et puis après, ils partent en tournée dans toute la France.
Ça, c'était l'un de vos œils qui était consacré à cette pièce. Et ce soir, vous nous parlez d'Anne Sylvestre.
Oui, Anne Sylvestre, un très beau livre de Véronique Mortaigne, notre ancienne consoeur du Monde, spécialiste de la chanson française. Elle consacre un livre à Anne Sylvestre intitulé « Anne Sylvestre, une vie en vrai ». C'est vachement bien. On en parle.
Dans l'œil de Pierre, juste après 20h. Mohamed, votre story ce soir.
Alors, après avoir volé avec la patrouille de France, après avoir volé avec l'armée de l'air, aujourd'hui, j'ai grimpé dans un arbre à 15 mètres de hauteur dans le 7e arrondissement. On est allé voir Thomas Braille, l'homme qui dort en face de la Tour Eiffel dans un platane à 15 mètres de hauteur. Il veut sauver les arbres à Paris et en France. Vous allez découvrir son histoire.
Et défie le gouvernement. Patrick, votre édito ce soir.
Des job dating à l'éducation nationale à l'Académie de Versailles pour recruter les profs. 1300 enseignants à trouver pour la rentrée prochaine. Et les candidats se bousculent.
Voilà, et c'est l'un des sujets qu'on soumet ce soir au président du Rassemblement national, député européen Jordan Bardella, qui est ce soir notre invité. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci de votre présence.
Merci
ce
à
soir.
Vous.
Mathieu, dans le 5 sur 5.
C'est la journée mondiale sans tabac, et pour une fois, on ne va pas s'arrêter uniquement sur le fléau qu'est le tabac pour vos poumons, mais pour la pollution qu'il occasionne. Alors, c'est la déforestation, 5% de la déforestation par exemple, pollution des eaux aussi, on va en parler, c'est l'OMS qui alerte sur la catastrophe écologique qu'est la cigarette.
Ce soir, c'est le choc des titans à Roland-Garros. Novak Djokovic face à Rafael Nadal. Match retransmis gratuitement sur une chaîne qui n'est pas France Télévisions, mais au moins ce sera gratuit. Et ben pour nous, c'est l'occasion de recevoir une des légendes du tennis féminin. Elle s'appelle Billie Jean King. On se souvient à quel point elle avait... révolutionner le tennis et puis rabattu son caquet à un joueur de tennis hyper macho qui considérait que les femmes étaient inférieures sur le plan sportif aux hommes. Elle est notre invitée ce soir, notre invitée du dîner, aux côtés de l'incontournable Nassim Monfort. Dîner préparé ce soir par Christophe Hay, chef de Fleur de Loire. C'est un restaurant qui est à Blois, dans le Loir-et-Cher. Bienvenue, cher Christophe, au menu ce soir.
Bonsoir à tous. C'est un honneur d'être à vos côtés et de représenter la Loire et ce joli fleuve qui a été classé à l'UNESCO en 2000. Donc, voilà, pour moi, c'est un plaisir de me déporter et de venir à vos côtés.
Avec des asperges blanches de Saint-Claude dans nos assiettes ce soir. Merci, Christophe.
Exactement.
À tout à l'heure. On commence tout de suite par l'édito de Patrick Cohen. L'éducation nationale manque cruellement de profs. Depuis hier, l'Académie de Versailles recrute en organisant des job dating.
Ben oui, comme pour les rencontres amoureuses basées sur cette méthode. 30 minutes d'entretien pour convaincre ou séduire. La rectrice de Versailles, la plus grosse académie de France, avait rameuté les postulants en lançant il y a 15 jours une sorte d'appel au secours pour venir peupler les classes.
Vous recherchez un emploi, un nouveau métier qui a du sens ? Ceux qui connaissent déjà le métier qu'ils souhaitent exercer pourront passer des entretiens pour devenir professeurs en école, en collège, en lycée, accompagnant d'élèves en situation de handicap, médecin ou infirmier scolaire, ou encore psychologue de l'éducation nationale. Pour la rentrée de 2022, nous avons plusieurs centaines de postes à proposer. Alors venez nous rejoindre, pour les journées du recrutement.
Les journées du recrutement et pas job dating. Mais enfin, l'appel a été largement entendu par des candidats bien plus nombreux qu'espérés. Vous allez voir leur motivation et leur diversité. Mais on découvre aussi l'ampleur de la crise. Les concours ne font pas le plein. Versailles a besoin de trouver pour la rentrée 700 professeurs des écoles et 600 professeurs de collèges et lycées contractuel, soit 2% des effectifs de l'académie, c'est considérable. Enfin, la troisième chose qui m'a frappé dans cette histoire, c'est la violence des réactions sur les réseaux sociaux, des enseignants qui se disent écœurés de voir leur métier bradé, les profs remplacés par les premiers venus, des politiques de gauche notamment qui dénoncent la casse de l'école par Macron avec des fast profs recrutés en une demi-heure, François Ruffin, Adrien Quatennens, Fabien Roussel, etc.
D'où viennent-ils ces premiers venus?
C'est pas tout à fait les premiers venus, ils ont fait des études, hein, minimum bac plus 3. Ils sont en poste dans le privé, en reconversion, désireux de changer de vie ou en recherche d'emploi. Voici quelques-uns de ces candidats au métier de prof, filmés par France 2 ou BFM TV.
Je suis dans le droit, je suis juriste.
Je suis manager dans un grand groupe de protection sociale.
J'étais en cosmétique.
J'étais fiscaliste à EDF.
Suite à 33 ans de boulot dans la pub, j'en ai un petit peu fait le tour, je pense. J'ai fait des expériences en école primaire, ça m'a bien plu, donc pourquoi pas continuer, quoi.
Donc ceux qui ont un entretien calé à 10h, bienvenue, venez.
Je voulais être professeur des écoles depuis longtemps.
Vous seriez intéressé par quelle discipline, en fait?
Donc moi, c'est plutôt commerce et vente.
Voilà, des graphistes, des ingénieurs, des pubards, des salariés lassés du monde de l'entreprise, il y a un peu de tout.
Et ils sont prêts à des pertes de salaire?
Oui, ils savent qu'ils seront moins payés que dans le privé, mais beaucoup prononcent spontanément la phrase qui pouvait sonner comme un slogan dans la bouche de la rectrice qu'on a entendu tout à l'heure, mais qui n'en est pas un, donner du sens à sa vie.
J'ai eu des enfants et une très belle carrière dans le marketing et la finance. Mais là, quarantaine passée, j'ai besoin de donner du sens à ma vie, en fait. Aujourd'hui, je peux me permettre de gagner un peu moins.
Et ils sont vraiment recrutés en 30 minutes chrono?
Non, c'est un premier filtrage. Il y a des questions sur leur carrière, sur leur motivation, etc. Mais les candidats retenus auront ensuite un deuxième entretien, puis une formation au métier d'enseignant avant la rentrée, une formation express, forcément.
Oui, parce qu'ils seront en poste, s'ils sont retenus, dès la rentrée prochaine.
Dès la rentrée prochaine.
Vous avez l'air émerveillé par cette opération,
Patrick?
Non,
je ne suis pas émerveillé. Dans un monde idéal, les enseignants doivent être nombreux, bien formés, bien payés et sélectionnés sur concours. D'ailleurs, les contractuels embauchés dans ce job dating auront la possibilité de passer des concours dans un second temps. Donc, je comprends absolument les réactions réflexes des profs et de leurs syndicats, de tous ceux qui ont fait 5 années d'études, qui savent que le métier d'enseignant ne s'improvise pas, qu'il y aura forcément des échecs, des ratés et des enseignants parfaitement inadapté. Et il y aura sans doute forcément des drames à la rentrée. Mais ce que je trouve enthousiasmant, c'est la motivation de tous ces candidats, de tout ce qu'on a entendu dans les reportages, leur envie d'enseigner, de transmettre, de faire leur métier de citoyen au contact des enfants et des adolescents, d'exercer le plus beau métier du monde. Ça,
c'est enthousiasmant.
C'est enthousiasmant.
Et donner
et ça
du
m'émerveille.
Sens à sa vie, c'est vrai. Vous partagez l'enthousiasme nuancé et modéré de Patrick Cohen.
J'y apporterai un peu de nuance. Ça paraît surréaliste. Enfin, ça paraît surréaliste qu'en quelques minutes, vous puissiez devenir enseignant et prendre possession des classes d'école à la rentrée. Je pense que ça dit
pas
beaucoup.
Pas quelques minutes, hein, Jordan Bardella.
J'espère qu'ils ne font pas la même chose avec les pilotes d'avion, avec les chirurgiens, les policiers, les gendarmes, les médecins, parce que
c'est la comparaison de
là pour le coup, c'est très inquiétant.
Qu'on a vu de
mais au-delà de ça et au-delà de ce que ça dit de l'ubérisation de l'économie, je pense que ça dit beaucoup de l'effondrement de l'État. C'est-à-dire que la santé s'effondre aujourd'hui. Il y a une crise de la vocation chez les soignants qui ne veulent plus exercer. Le métier d'enseignant est dévalorisé parce que les salaires sont beaucoup trop bas et que le métier n'est plus attractif. Il n'y a plus personne pour se présenter au concours de gardien de prison. Donc ça dit beaucoup de l'effondrement de l'État, de l'effondrement de la fonction publique. Et je pense que ça aura des conséquences, évidemment, dans les prochaines années, sans compter des conséquences sur la dévalorisation même du poste même d'enseignant pour des gens qui ont fait bac plus 5.
On a bien compris le constat général, mais là, dans l'urgence, on fait quoi à la rentrée? On ferme des classes? Il y a des enfants sans prof?
Non, écoutez, la question, ce n'est pas après 40 ans de raté de politique publique, qu'est-ce qu'on fait? La question, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour rendre le métier d'enseignant beaucoup plus attractif? Et je pense qu'il faut évidemment faire un geste pour les salaires et revaloriser les salaires. Je me permets de vous rappeler qu'on a probablement les enseignants les moins bien payés d'Europe. Donc il y a évidemment un effort à faire sur la revalorisation des salaires. Et puis il faut rétablir l'autorité à l'école. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui, dans beaucoup de quartiers de France, aujourd'hui, n'arrivent plus à enseigner correctement et vont travailler la boule au ventre. Moi, il y a un sondage qui m'avait beaucoup marqué, qui était sorti il y a quelques mois, et qui disait que dans les écoles de France, un enseignant sur deux s'auto-censurait. Et il y a des passages de l'école aujourd'hui, de l'histoire de France, qu'on ne peut plus aborder. C'est vrai que la Shoah, c'est vrai que la guerre d'Algérie. Et je pense que tout cela participe de l'effondrement, en fait, de l'autorité dans notre société.
Un sur deux, c'était surtout toute la durée de sa carrière.
C'est bien sûr,
pas,
bien sûr.
C'est pas dans la période récente.
Et non, non, bien sûr, vous avez raison, c'est sur toute la durée de sa carrière, évidemment.
Autre sujet d'actualité, la polémique autour des événements du Stade de France samedi soir. Gérald Darmanin continue. Le ministre de l'Intérieur a pointé une fraude massive sur les billets pour expliquer l'origine de ces incidents. Il l'a dit à nouveau hier aux 20h de TF1.
Voici un billet véritable, voici un faux billet. Évidemment, quand vous êtes stadier, vous faites le préfiltrage et normalement vous faites un petit marquage. Vous voyez assez peu à l'œil nu s'ils sont un faux ou un vrai billet. Et il y a eu 70% des contrôles du préfiltrage, 70% des personnes qu'on a contrôlées, ça veut dire donc 120 000 personnes, 80 000 plus ces 40 000 qui n'auraient pas dû être là, qui ont vu leur billet étant faux. Là, il se trouve que les clubs de foot, notamment Liverpool, ont demandé l'intégralité de leur billet en papier. C'est un peu étonnant. Donc effectivement, pour régler les problèmes, la ministre des Sports a demandé à ce qu'on étudie que dans toute compétition qui puisse se dérouler sur le territoire national, désormais les billets soient infalsifiables, c'est-à-dire totalement numériques.
Votre réaction à ces explications de Gérald Darmanin, c'est de traiter le ministre de l'Intérieur de menteur pathologique. Il est dans le déni quand il explique que la billetterie, en tout cas le grand nombre de faux billets, est un des responsables du chaos.
Bien sûr, parce que ce n'est pas le sujet, en vérité. Qu'il y a eu un peu d'agitation et de tension de certains supporters qui n'ont pas pu assister à la rencontre, il y a évidemment un sujet sur l'impression de 20 000 faux billets. Quand il dit 40 000, il ment. D'ailleurs,
et
les journalistes...
Pour quelle raison, dans quel intérêt et pour cacher quoi?
Je ne sais pas, mais écoutez, 40 000 personnes, ça représente le parc des Plains rempli. Il n'y avait pas l'équivalent du parc des Plains à l'extérieur. Le sujet, c'est les hordes de délinquants et de voyous qui ont attaqué les touristes, qui ont attaqué les supporters à la sortie du match. On a vu des scènes et des témoignages, et il faut lire d'ailleurs la presse ce matin, il y a un article dans le Parisien, il faut lire depuis 2-3 jours...
Des hordes, vous dites,
des hordes de délinquants, de voyages...
De 400, dit
qui ont attaqué les touristes. Il y a des scènes de vandalisme, il y a des touristes qui ont été pillés, il y a des voitures qui ont été cassées, les valises ont été volées à l'intérieur, il y a des supporters qui ont été injuriés, insultés. Et la vérité, c'est qu'il y a un problème aujourd'hui.
Mais il n'y a pas de déni de la part de la préfecture
avec,
de police,
si,
puisqu'elle accepte le fait qu'il y a 300 ou 400 délinquants.
Bien sûr qu'il y a un déni, parce que ce n'est pas le sujet. Et il va jusqu'à accuser les supporters britanniques de la situation de violence que l'on voit depuis des jours sur les réseaux sociaux. Le sujet, si vous me le permettez, ce n'est pas les supporters britanniques. Ce sont les délinquants qui sont venus des cités voisines pour faire leurs courses et pour s'en prendre aux supporters, à des supporters qui, permettez-moi, ne sont pas prêts de revenir en France. Et ça dit beaucoup de notre incapacité aujourd'hui à organiser une rencontre sportive. Et moi, je suis très inquiet pour les Jeux Olympiques 2024. Parce qu'il y a une grande partie des...
Qu'est-ce qu'on fait ? On les annule, les Jeux Olympiques 2024 ?
Non, non, il y a une grande partie des... D'abord, on rétablit l'ordre et la sécurité, ce que n'est pas capable de faire le ministre de l'Intérieur. Parce que ces scènes de violence, de déferlement de violence, sont une exception française. Il y a des dizaines et des dizaines de finales qui ont été organisées. On n'a jamais vu cela. On n'a jamais vu de telles scènes. Et probablement que si ce match avait eu lieu, pas de cette nature, et probablement que si ce match avait eu lieu...
C'est précisément à Liverpool qui a eu 93 supporters écrasés contre des grilles.
Encore une fois, si ce match avait eu lieu, permettez-moi, si ce match avait eu lieu au Stade Charletti ou au Parc des Princes, probablement qu'il n'y aurait pas eu ce type de violence. Parce qu'il y a un problème aujourd'hui, il faut le dire, avec la Seine-Saint-Denis. Mais bien sûr, il y a un problème avec la Seine-Saint-Denis.
C'est plus la France, la Seine-Saint-Denis.
Ah, je dis que c'est une enclave où s'applique un autre droit. Et le ministre de l'Intérieur préfère risquer l'incident diplomatique en accusant les Anglais avec l'Angleterre plutôt qu'avec la Seine-Saint-Denis, où on a l'impression que s'applique un autre droit. Et aujourd'hui, les habitants de ce département sont pris en otage par le trafic de drogue et par la violence. Et moi, je vais vous dire, je suis allé au commissariat de Saint-Denis. Les policiers, ils nous disent quoi? Ils nous disent qu'il n'y avait pas un seul supporter britannique dans les cellules de garde à vue. Que la plupart étaient des migrants qui étaient venus de la Porte de la Chapelle et étaient des jeunes connus des services de police qui viennent des cités aux alentours et qui sont venus pour faire leurs courses et pour organiser des pillages. Donc nous sommes la risée du monde. Et ce qu'on vit en France est un ensauvagement sans commune mesure, une explosion de la violence dont la responsabilité incombe au ministre de l'Intérieur. Enfin, je veux dire, tout le monde va dans ce sens-là. Je veux dire, tout le monde est sur l'autoroute. Il n'y en a qu'un qui va dans le sens inverse sur l'autoroute, c'est le ministre de l'Intérieur, qui nie cette explosion de la violence dans notre société. Donc c'est triste pour la France, et ça dit beaucoup, encore une fois, de l'effondrement de l'État.
Ça veut dire quoi? Il faut revoir la doctrine de maintien de l'ordre? Il faut encore plus de lacrymogènes? Il faut des forces de l'ordre encore plus agressives dans le maintien de l'ordre? Ça ne vous a pas choqué de voir des enfants gazés, des choses comme ça?
Je pense que d'abord, il faut commencer par arrêter l'immigration. Parce que la question, c'est pas est-ce qu'il n'y a pas assez de policiers, c'est est-ce qu'il n'y a pas trop de délinquants aujourd'hui qui n'ont rien à faire dans ces territoires et qui, pour beaucoup, devraient être en prison parce qu'ils sont connus des forces de police. C'est-à-dire, quand on traîne par terre des citoyens, qu'on les agresse, qu'on agresse les femmes, qu'on casse, qu'on s'en prend aux policiers, alors je pense que la place n'est pas en liberté, mais la place est évidemment d'être derrière les barreaux. Donc il faut commencer par arrêter l'immigration et il faut, je crois, rétablir l'ordre dans notre société. Si on ne fait pas un tournant en matière d'autorité, en arrêtant d'avoir cette politique laxiste qui fait que les quelques personnes qui ont été... Eh ben, avec nous, vous voyez, les quelques personnes qui ont été attaquées, qui ont été interpellées, qui ont agressé les forces de l'ordre, sous procès, ne sont pas remis en liberté 2 heures plus tard. Vous voyez, donc il faut un tournant en matière pénale, il faut rétablir les peines planchers, il faut supprimer les remises automatiques de peine, il faut créer des places de prison, il faut faire en sorte que les délinquants mineurs, qu'on abaisse la majorité pénale à 16 ans, qu'on revienne sur l'ordonnance de 45 qui protège aujourd'hui en grande partie les mineurs et qui fait qu'aujourd'hui, quand vous venez de la cité du Framboisin et que vous agressez des touristes, vous ne risquez quasiment rien et 2 heures après, vous êtes dehors. Donc cette politique, elle est insupportable et je pense que beaucoup de Français ont été indignés par les images qu'ils ont vues. À commencer par les habitants de la Seine-Saint-Denis qui, je le dis, sont les premières victimes de ça.
Vous dites qu'ils n'habitent plus en France. Hein.
Parce que je dis qu'il y a beaucoup d'habitants de la Seine-Saint-Denis qui ne reconnaissent plus le pays dans lequel ils ont grandi et beaucoup ont le sentiment de ne plus être en France. Et je vais vous dire ce qu'ont subi les supporters samedi soir au Stade de France, c'est ce que subissent les habitants de la Seine-Saint-Denis tous les jours abandonnés par l'État.
Les immigrés qui étaient là samedi au Stade de France, ils étaient anglais.
Qu'ils ne sont pas européens ?
Bien sûr. Non, mais c'est vrai que. Non, mais là, je.
Quelle est la définition de l'immigré ?
Non, non, mais attendez, monsieur Cohen. C'est vrai, non, non, mais vous avez parfaitement raison. C'est vrai que si on enlève les.
Qui est né à l'étranger.
Si on enlève les supporters, vous confondez les immigrés et les étrangers.
Non, c'est vous qui confondez les
immigrés. Non, non, mais je fais aucune. Non, non, mais oui, oui, il faut arrêter l'immigration parce que je pense qu'il y avait beaucoup de gens. D'ailleurs, c'est les policiers qui l'ont rapporté à vos confrères de Valeurs Actuelles, des Algériens, des Marocains, des Africains, qui sont pour beaucoup des mineurs isolés et qui viennent et qui venaient de la porte de la chapelle. Mais permettez-moi de vous dire que...
Vérifier leurs papiers, vous êtes...
Allez dire aux habitants de la Seine-Saint-Denis que si on retire les supporters britanniques, la Seine-Saint-Denis deviendra un havre de paix. Évidemment que non, et évidemment que la situation en Seine-Saint-Denis, comme dans beaucoup de banlieues, est devenue hors de contrôle. Il y a un rapport parlementaire qui était sorti il y a quelques mois, avant la présidentielle de 2017, et qui disait qu'il y avait en Seine-Saint-Denis jusqu'à 25% de la population qui était présente de manière clandestine, c'est-à-dire 400 000 personnes sur 1 500 000 habitants. Allez demander aux policiers qui, tous les jours, sont en première ligne, qui sont les gens qui les agressent. Ils vous diront que ce sont systématiquement les mêmes, y compris, d'ailleurs, on me l'a dit hier au commissaire de Saint-Denis, des gens qui ont une carte de fidélité aux cellules de garde à vue de la Seine-Saint-Denis et qu'on revoit 10, 15, 20, 30 fois dans l'année.
Les citoyens de Seine-Saint-Denis qui n'ont pas du tout voté Marine Le Pen à la dernière présidentielle, mais Jean-Luc Mélenchon.
Eh bien, je leur dis, hélas, que la violence va continuer parce que ce que souhaite faire Jean-Luc Mélenchon, c'est désarmer la police et c'est supprimer les brigades anticriminalité. Or, moi, contrairement à la NUPES et à l'alliance de gauche qu'a composé M. Mélenchon, moi, je ne rends pas responsable les policiers de ce qui s'est passé. Je pense que les policiers font un travail exemplaire dans des conditions qui sont de plus en plus déplorables. Et croyez-moi que quand vous parlez avec eux, vous avez une autre version des faits.
Jean-Luc Mélenchon, qui est déjà quasi certain d'une partie du résultat le 12 juin prochain au premier tour des élections législatives.
C'est une autre époque qui commence pour la gauche. Pour le mouvement que nous représentons dans l'histoire. La page précédente est tournée. Nous sommes absolument et fondamentalement responsables de celle qui arrive. Nous, ici, quoi qu'il arrive, vainqueurs ou perdants de peu, une force immense dorénavant est là. Et le premier résultat qu'on observera le dimanche soir du premier tour, c'est que peut-être pour la première fois depuis tant et tant d'années, nous aurons battu le Front National au premier tour. Et de loin.
Jean-Luc Mélenchon, très optimiste, qui espère même avoir une majorité à l'Assemblée nationale, ce que le Rassemblement national n'affirme pas. Marine Le Pen, elle dit, moi je dis la vérité, hein, ni le RN ni la NUPES ne peuvent l'emporter. C'est peut-être moralement louable de dire la vérité aux électeurs, mais ce n'est pas très mobilisateur.
Bah, écoutez, je pense que
quel est l'intérêt pour
au moins nous faire grâce de ça, c'est peut-être qu'on a
d'avoir envie d'aller voter s'il
c'est
est sûr que ses idées ne vont pas l'emporter.
C'est peut-être pour se doter d'une opposition puissante face à Emmanuel Macron, mais je pense qu'on a inventé la vérité en politique. Et on ne fait pas croire, si vous voulez, aux Français qui nous regardent. Même vous, vous souriez parce que vous savez pertinemment que Jean-Luc Mélenchon ne sera jamais Premier ministre et qu'Elisabeth Borne sera Premier ministre à l'issue des élections législatives. Et probablement que si je vous avais dit le contraire, vous me l'auriez reproché. Que l'objectif de Jean-Luc Mélenchon soit de combattre le Rassemblement national, je dirais que ça lui fait un point commun avec Emmanuel Macron. Parce que Jean-Luc Mélenchon a appelé à voter pour Emmanuel Macron. C'est lui qui a fait lire Emmanuel Macron. Donc il veut en même temps être le premier opposant, en même temps être le Premier ministre et en même temps vouloir descendre dans la rue s'il ne devait pas participer du gouvernement de M. Macron. Moi, je vous le dis et je l'assume, je ne veux pas être ministre d'Emmanuel Macron. Et Marine Le Pen ne souhaite pas être ministre d'Emmanuel Macron. La question de ces législatives, c'est quelle opposition va avoir Emmanuel Macron pendant 5 ans en face de lui. Et je pense que ces législatives sont aussi un référendum sur la retraite à 65 ans, sur l'explosion aujourd'hui des taxes et de l'inflation tout azimut dans notre société, sur la poursuite d'une immigration dérégulée et sur cet ensauvagement sans précédent qui est le bilan des faiblesses et du laxisme des gens qui sont au pouvoir depuis 5 ans.
Si le président a la majorité absolue à l'Assemblée, vous n'empêcherez rien du tout.
Eh bien, moi, je ne souhaite pas donner les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron.
Mais c'est quoi
voilà. Alors, oui. Mais écoutez, si on est encore en démocratie, alors il y a une majorité, il y a une opposition. Mmh. Et je dis aux Français, regardez la politique qu'a conduite Emmanuel Macron depuis 5 ans, qui a été une politique très dure, très brutale, une politique de saccage social.
Et pourquoi vous ne demandez pas aux Français de vous donner la majorité ?
Mais les Français voteront en leur âme et conscience. Moi, je leur dis, nous pouvons avoir un groupe puissant à l'Assemblée nationale. Marine Le Pen a dépassé les 50% dans 30 départements au second tour, dans 30 départements français, et dans plus de 150 circonscriptions. Donc si vous nous donnez de la voix, si vous nous donnez de la force, alors nous allons vous défendre à l'Assemblée nationale.
Oui, exactement, avec les voix d'Éric Zemmour.
Vous et Marine Le Pen avez refusé de faire alliance avec Éric Zemmour, justement. Voilà ce qu'il en disait lui-même sur Europe 1.
Elle n'a pas voulu, elle n'a pas su faire ce grand rassemblement des droites que moi, j'aurais fait si j'avais été à sa place, comme Jean-Luc Mélenchon l'a fait. J'aurais dit, on fait un rassemblement en fonction du rapport de force, mais tout le monde pourra y gagner et on va arriver très fort et on sera la seule opposition à Emmanuel Macron. Marine Le Pen n'a pas su et n'a pas voulu le faire, donc elle va se retrouver avec 20 députés, et c'est très bien, tant mieux pour elle.
Vous allez même faire campagne dans le Var, là où se présente Éric Zemmour.
Non mais je vais faire campagne là où les gens ont voté pour Marine Le Pen. Et pardon de vous rappeler que dans la circonscription qu'a découvert Éric Zemmour, hein, donc on ne va pas citer pour des raisons de répartition du temps d'antenne, mais permettez-moi de vous rappeler que Marine Le Pen a fait 57% des voix dans cette circonscription. Et que Éric Zemmour quitte Paris pour aller découvrir une circonscription. On avait un candidat qui était là il y a 5 ans, qui est un énarque reconnu, un élu local implanté, qui a frôlé la victoire il y a 5 ans et qui a de très grandes chances de l'emporter. Donc, si vous voulez, on peut pas en même temps venir se présenter pour nous empêcher d'accéder au second tour, comme il l'a fait à la présidentielle. Parce que la finalité de l'opération Zemmour aurait pu être la qualification de Jean-Luc Mélenchon face à Emmanuel Macron. Donc moi, je dis à ces électeurs, parce que les accords de boutique, je pense que ça intéresse personne, je dis aux électeurs d'Éric Zemmour, Reconquête ne passera le second tour dans pratiquement aucune circonscription. Donc ne dispersez pas vos voix. Toute dispersion des voix va renforcer et servir Emmanuel Macron. Donc nous partageons de grandes idées ensemble. Pour la France, venez avec nous, travaillons ensemble et donnez-nous de la force pour porter vos idées à l'Assemblée nationale. Et puis, pour vous répondre, on a des divergences aussi, on a des points d'accord sur la question régalienne. Mais la réforme emblématique de ce quinquennat, c'est la retraite à 65 ans. Moi, je pense que les Français ne sont pas voués à arriver à la retraite avec le dos et les bras cassés. Éric Zemmour, il défend la retraite à 64 ou 65 ans comme Emmanuel Macron. Eh bien, moi, je suis en désaccord avec cela et je pense qu'il est important que nos électeurs puissent être entendus et défendus. Et nos électeurs, en l'occurrence, ils ont voté pour la retraite à 60 ans, pour tous ceux qui commencent à travailler entre 17 et 20 ans.
Si vous êtes d'accord avec Jean-Luc Mélenchon et le programme de la NUP.
Il veut la retraite à 60 ans, Jean-Luc Mélenchon.
Ah oui, oui.
Mais Jean-Luc Mélenchon, ça ne vous aura pas échappé qu'il fait preuve d'une forme de démagogie en matière économique que peu de chefs d'entreprise trouvent crédible. Sur la hausse tout azimut du SMIC, sur l'explosion des impôts, sur l'accélération de la politique d'immigration. Jean-Luc Mélenchon, son modèle, c'est la Bolivie, le Venezuela ou Cuba. Ce n'est pas mon modèle. Je pense qu'entre Cuba et l'impuissance du gouvernement sur l'explosion aujourd'hui des prix de l'essence, il y a une voie de bon sens qu'on doit porter. Et permettez-moi de vous rappeler que la première mesure que nos députés voteront si nous arrivons en nombre à l'Assemblée nationale, que nous proposerons en tout cas au vote, c'est la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur l'ensemble des énergies et notamment sur le carburant, parce que le carburant s'envole et le gouvernement reste les bras ballants, alors même où les Français, eux, n'arrivent plus à faire le plein de leur voiture et sont contraints de limiter leurs déplacements. Et cette situation est évidemment insupportable.
Vous restez avec nous, Jordan Bardella, le temps de la story de Mohamed Bouafsi. Pour sauver des arbres, grimpons-y.
Oui, en tout cas, depuis 48 heures, des milliers de touristes et les Parisiens peuvent apercevoir un homme vivant dans un arbre à plus de 15 mètres de hauteur en face de la Tour Eiffel. Pour aller le rencontrer, il faut se harnacher et apprendre quelques consignes.
Tac, allez, l'autre pied, on y va. Voilà, voilà. Et c'est parti.
Thank you. voilà, l'homme que vous venez de voir, c'est Thomas Braille, un fervent défenseur de la cause des arbres en France. Le 2 mai, plusieurs associations se scandalisent du projet de réaménagement du site de la Tour Eiffel et de l'abattage de 42 arbres, dont certains bicentenaires. La mairie de Paris avait réagi à l'époque dans cet aveu.
On a bien vu que ce sujet de sensibilité aux coupes d'arbres était important. C'est tout l'objet de la concertation, de l'écouter, de le prendre en compte. Et donc, d'ores et déjà, on a, sur les 42 arbres qui étaient anticipés pour être coupés, baissé ce chiffre à 22. Et avec la maire de Paris, nous avons réorienté le travail des équipes pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun arbre abattu. C'est un peu la philosophie de l'urbanisme que nous portons, c'est de s'adapter aux contraintes, s'adapter à la nature plutôt que l'inverse. Ce n'est pas forcément dans le logiciel habituel de l'aménagement urbain. Il y aura des sacrifices à faire et clairement, ce n'est pas les arbres qui en seront victimes, les arbres seront sauvés.
Et depuis le 2 mai, plus rien, aucune loi et pour plusieurs associations, la menace pèse encore. Pour interpeller la ville de Paris et le gouvernement, Thomas Braille, fondateur du groupe national de surveillance des arbres, a décidé de s'installer dans le platane datant de 1814 qui fait face à la Tour Eiffel. Depuis 48 heures, il vit dans une tente à 15 mètres de hauteur. Un geste symbolique qui dépasse la simple protestation liée à cet arbre majestueux.
Une action pleine de bon sens. Le GIEC nous donne 20 ans pour redresser la barre. Moi, j'ai un gamin, il a 4 ans et demi. Qu'est-ce que je lui dis dans 20 ans? J'aime les arbres, j'aime la nature, ça c'est une chose. Mais moi, j'ai peur pour mon fils, quoi. Donc, tant que cette peur, elle est ancrée, tant que les autorités publiques ne jouent pas le jeu de nous rassurer, de nous dire que ben, ça va aller mieux et qu'on s'occupe des choses, ben, mon rôle de parent, c'est de protéger mon fils. Donc, moi, je protège mon fils, quoi.
Hier après-midi, Emmanuel Grégoire, le premier adjoint de la mairie de Paris, lui a reconfirmé qu'il n'y aurait aucun abattage d'arbres au pied de la Tour Eiffel. Depuis plusieurs années, Thomas Braille traverse la France pour protéger les forêts. En 2019, il avait passé 28 jours dans un arbre en face du ministère de la Transition énergétique. Il dénonçait à l'époque le massacre des arbres dans nos villes et nos villages.
On n'a aucune nouvelle aussi de la part du ministère de la Transition écologique. Donc on garde espoir que ça bouge, voilà, donc 20e jour dans l'arbre, ça commence à faire un petit peu long, c'est clair, mais on est là et on ne lâche rien.
Alors à l'époque, c'était dans un hamac, aujourd'hui il a une tente, donc ça va beaucoup mieux pour se reposer, pour dormir la nuit. En tout cas, la ministre en 2019, Elisabeth Borne, avait finalement tweeté en expliquant qu'elle comprenait et partageait les combats de l'écologiste. Aujourd'hui, Thomas Braille demande un grand plan pour éviter les industrialisations de masse de nos forêts.
J'habite dans le Tarn et je vois les forêts se dégrader, quoi, par des grandes sociétés voilà, qui proposent aux propriétaires forestiers de transformer leur forêt en forêt de résineux. Ce n'est pas la bonne solution que de faire ça. Oui, il y a des dégradations. Moi, dans les forêts, je m'y promène souvent. Il n'y a plus de vieux arbres. On a des arbres qui sont prélevés en permanence. On a des arbres qui ont les mêmes diamètres et les mêmes gabarits. Enfin, nos forêts, elles ne sont pas du tout bourrées d'écosystèmes. Moi, je vois de moins en moins d'animaux dans les forêts, quoi.
Alors Thomas Braille me l'a redit, il ne descendra pas de l'arbre avant d'avoir une réponse de la première ministre Elisabeth Borne. Et on vient de l'apprendre juste avant le début de l'émission, il nous a envoyé un texto. Thomas Braille sera reçu à la mairie de Paris vendredi matin, une réunion pour graver dans le marbre l'annulation de l'abattage des arbres du site de la Tour Eiffel.
Mais il y a un autre truc, hein, c'est qu'il y a des bâtiments qui ont prévu d'être construits, pour l'instant c'est la mairie de Paris n'y a pas renoncé, qui sont assez proche de ces arbres centenaires ou bicentenaires, ce qui évidemment peut leur être fatal parce qu'un arbre a besoin d'espace et de grandes racines pour se déployer. Donc il y a des arbres qui peuvent être menacés et par ailleurs il y a beaucoup d'opérations urbanistiques à Paris qui sacrifient les arbres.
Le Rassemblement national sur l'écologie, la préservation des forêts...
Que les écolos coupent les arbres au nom de l'écologie, c'est assez troublant.
Les écolos de la mairie de Paris.
Oui, c'est, je vous avoue, c'est, ça me laisse perplexe, mais enfin, vous me direz qu'ils ne sont pas une contradiction près.
Et le Rassemblement national a des mesures, là, pour le pouvoir d'achat, on l'a compris, mais pour la préservation de la planète, des mesures d'urgence.
Moi, je pense que l'environnement, c'est évidemment un des grands défis de notre génération. Le GIEC nous donne en réalité trois ans pour agir, mais il y a un rapport intéressant dont peu de monde parle, c'est celui du Haut Conseil pour le climat, qui nous dit que la moitié de nos émissions de gaz à effet de serre, la moitié des gaz à émissions d'effet de serre de la France est liée à nos importations. Et en vérité, tant qu'on continuera ce modèle économique qui est basé sur le grand déménagement du monde, qui vise à faire en sorte qu'il y ait 60 000 supertankers qui traversent la planète en permanence, alors on commettra crime, peut-être, contre la planète.
Merci. Oui, un mot
j'allais... La moitié de nos émissions de gaz à effet de serre est liée à nos importations. C'est un rapport pour du Haut Conseil pour le climat que je vous ferai.
Bon, on vérifiera, on fact-checkera. Merci beaucoup Jordan Bardella d'avoir accepté ce soir notre invitation. C'est un phénomène considérable. Chaque année, 100 000 Japonais organisent leur propre disparition. On les appelle les évaporés. Et la police n'enquête que très rarement sur ce qu'en France, on considérait comme des disparitions inexpliquées ou inquiétantes. Et quand un matin de juillet 2018, une jeune Française quitte son hôtel de la cité touristique de Nikko, sans sa valise ni son passeport pour ne plus jamais donner signe de vie, l'enquête reste sommaire. Conclut à un accident, laissant la famille sans réponse à ses questions.
Tiphaine Véron, 36 ans, a disparu. Aucun signe de vie depuis dimanche 29 juillet, il y a 9 jours. La Française se trouvait alors à 150 km de Tokyo, dans un hôtel à Nikko. Elle serait ensuite partie visiter les jardins et forêts de cette ville touristique. Sa sœur est arrivée sur place samedi afin de la retrouver. Pour elle, Tiphaine Véron ne peut avoir disparu volontairement. Elle était heureuse de ce voyage, dans un pays qui la passionne.
Bonsoir Sybille et Damien Véron, vous êtes la sœur cadette et le frère aîné de Tiphaine. Et vous venez ce soir à l'occasion du récit de l'enquête que vous avez menée vous-même pour tenter le mystère de la disparition de votre sœur. Depuis 4 ans, la police japonaise défend une thèse, celle de la piste accidentelle. Tiphaine serait partie en excursion et aurait fait une chute dans la rivière qui coule à proximité de son hôtel. La preuve, selon la police japonaise, le foulard qui lui appartenait est retrouvé à proximité de la rivière. C'est un élément bien faible, mais dont la police va en quelque sorte se contenter.
Mais tout à fait, alors vous avez raison. Alors ce qui est terrible, c'est qu'au Japon, quand vous avez une piste officielle qui est énoncée, elle n'est pas contestée. Quant au foulard, lorsque nous sommes arrivés au Japon, effectivement, ils ont dit « c'est une piste accidentelle, ce foulard appartient à Tiphaine, elle est tombée dans la rivière ». Sauf qu'en fait, ce n'est pas le foulard de Tiphaine, on a pu le constater ensuite. Sauf qu'après, une fois qu'une piste est énoncée, c'est ce que je vous disais, c'est compliqué. Donc il a fallu démontrer, lorsqu'on est sur place, comment les inciter à faire autre chose, sachant que ce n'était pas une piste accidentelle.
Ce que vous comprenez très vite, c'est que ce n'est pas tellement dans la culture japonaise d'enquêter en cas de disparition, en tout cas pas au-delà du minimum syndical. C'est vous qui demandez l'organisation d'une battue, qui est organisée un peu pour la forme. Vous comprenez qu'aucune vidéosurveillance n'a été exploitée, que les données du téléphone de Tiphaine n'ont pas été analysées, et que, pire, le foulard, donc principale pièce à conviction, n'a même pas été ramassé.
Ah oui, c'est vrai que le premier jour où on arrive au Japon, on est très bien accueillis, mais c'est vrai qu'on nous emmène tout de suite au bord de la rivière en nous montrant le foulard, qui est censé appartenir à Tiphaine, et nous... donc il est là depuis des jours, devant nos yeux, et on nous dit, bon bah voilà, c'est le foulard de votre sœur, et la rivière juste à côté, bah, elle est tombée dedans. Voilà.
Parce que ça ne se fait pas de ramasser des objets oubliés.
Oui, mais d'ailleurs...
Au Japon, c'est pas dans la culture, quoi. On les laisse là au cas où quelqu'un le propriétaire viendrait le récupérer.
Exactement. Et c'est vrai que nous, au départ, enfin, on comprend pas, et c'est... Ça, je me souviens de la réaction des policiers, on dit, bon, on va le ramasser. Enfin, bon, on a dû signer une décharge. Enfin, c'était un petit peu étrange de vivre ça, mais ça a commencé comme ça.
Le message des policiers japonais a très vite été clair. Prenez vos valises, rentrez chez vous, circulez, il n'y a rien à voir. Et ça, ça a été d'une violence assez inouïe.
Ça a été d'une violence inouïe. Parce que surtout, on a dû repartir du commissariat de Nikko avec la valise de Tiphaine. Sauf qu'il pouvait y avoir des éléments importants dans sa valise, ses vêtements, peut-être des choses qui permettaient d'ouvrir une enquête. Donc non, oui, ça a été d'une violence inouïe, tout à fait.
Vous écrivez l'enjeu principal de l'enquête, c'était de tout faire pour prouver que c'était un accident, même si l'hypothèse s'est effondrée comme un château de cartes, et notamment l'élément météorologique, par exemple. On vous explique que si elle est tombée dans la rivière, c'est parce qu'il y avait un typhon. Ah, vous avez vérifié, il n'y a pas eu de ce phénomène-là ce jour-là.
Mais même ça a été écrit à la justice française, noir sur blanc. On a écrit, les Japonais ont écrit aux Français, il y a eu un typhon. Mais en fait, rien, c'est faux. On a les preuves, en plus des institutions officielles de météorologie japonaise. Il n'y a pas eu de typhon, la rivière n'a jamais débordé, il n'y a pas eu de crue. Nous, on l'a fouillé avec des experts. C'est incroyable d'en arriver là quand même, à dire il y a un typhon alors qu'il n'y en a pas.
Comment vous expliquez l'attitude de la police japonaise? C'est une culture différente de la nôtre? Parce qu'ils ont pris quand même la disparition de Tiphaine au sérieux, ils n'ont pas traité ça par-dessus la jambe, pas du tout.
Non, je pense que vous l'avez très bien évoqué, il y a le problème, le phénomène des évaporés au Japon, ce qui fait que quand un Japonais disparaît, il n'y a pas forcément de recherches qui sont menées. Mais oui, ça a été violent parce qu'il a fallu essayer de la décrypter et de comprendre pourquoi il ne faisait pas les choses. Et en fait, ce qui se passe aussi rarement au Japon, c'est que vous n'avez pas d'enquête criminelle ouverte. Et malheureusement, c'est ce qu'on a découvert aussi dans nos investigations, c'est qu'il y a énormément de faits divers, il y a énormément de choses qui se passaient à Nikko, donc l'endroit où Tiffany a disparu, sans qu'il y ait d'enquête qui soit ouverte, oui. Donc en fait, oui, c'est nous, en tant qu'Européens, en tant que Français, ça nous paraît vraiment complètement incroyable.
Votre conviction à tous les deux, c'est que Tiffany a été victime d'un acte criminel et vous avez identifié ce qui pourrait être le suspect numéro un, c'est-à-dire l'hôtelier, la dernière personne qui ait vu Tiffany en vie.
Alors, on ne veut pas porter d'accusation.
Bien sûr.
Simplement, il y a un décalage étrange entre son témoignage et nous, les données de Google Maps qu'on a fini par récupérer. Il y a un décalage d'une heure et demie entre le départ de Tiffany et ce que dit l'hôtelier. Forcément, ça pose question. Mais en fait, cet homme peut tout à fait être innocent, mais il faudrait l'interroger pour le savoir. Et pour l'instant, personne ne songe à mener une audition correcte concernant sa version des faits, qui en plus a changé plusieurs fois, mais nous, on est les seuls témoins avec la police à le savoir, parce qu'il a changé à chaque fois.
Ce que vous racontez, ce qui est assez sidérant, c'est que vous avez totalement privatisé cette enquête. C'est-à-dire que vous avez fait appel à un enquêteur, à un détective privé qui a fait pour vous le travail qu'auraient fait en France des enquêteurs de la police ou de la gendarmerie nationale.
C'est malheureusement, ça oui. Puisque nous, en voyant qu'au Japon, il ne se passait rien, nous, on comptait sur la France pour avoir un relais. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait, puisque grâce à la médiatisation au Japon, on a réussi, avec l'ambassadeur de France, à être en immersion dans la police locale du Japon. Donc ça nous a permis d'apprendre des choses, sauf que les policiers japonais ne répondaient pas à la France. Donc nous, on s'est dit, on va maintenir un lien pour que les policiers français et que la justice française prennent le relais. Sauf que malheureusement, malgré l'appui de l'Élysée, malgré beaucoup d'événements, il n'y a pas eu ce relais qu'on espérait, notamment du juge.
Vous avez dû notamment batailler pour obtenir l'analyse des données téléphoniques du téléphone de Tiffany. Ça a été une lutte assez incroyable parce qu'effectivement, c'était des éléments potentiellement intéressants.
Ah non, mais moi, c'est peut-être le sujet qui m'énerve le plus. Mais en fait, il n'y avait pas de bornage. Les Japonais n'arrivaient pas à obtenir le bornage, donc la dernière localisation du téléphone de Tiffany, de ses communications. Parce qu'elle avait des communications. Elle a reçu des messages, un appel du répondeur, etc. Et en fait, il a fallu que l'équipe de Free, donc l'opérateur de... Désolé, je donne la marque.
L'opérateur de votre
de notre sœur. Et qui nous aide gracieusement en disant, effectivement, là, il y a un problème. C'est pas normal qu'il n'ait rien, ces gens. Donc, en fait, ils ont eu un peu pitié de nous et ils nous ont aidés à creuser, à comprendre, à lire, en fait, les données des factures de Tiffany, en fait, de téléphone de Tiffany. Et en fait, c'est là où ils ont dit, en fait, il n'y a pas de bornage, tout simplement parce que son téléphone a brutalement cessé de fonctionner.
C'est en menant vous-même cette investigation-là que vous avez réussi à établir l'arrêt brutal du téléphone de Tiffany, sans en avoir évidemment l'explication. Les données téléphoniques ne sont pas les seuls éléments auxquels vous aimeriez avoir accès. Vous attendez également de pouvoir consulter les comptes rendus d'investigation, par exemple, mais la justice japonaise le refuse. Pourquoi ?
C'est le problème qu'on a dès le départ, parce que l'ambassade a tout de suite mis le canal Interpol en place. Donc les Français, de France, les policiers français, étaient assez actifs, envoyaient plein de choses aux Japonais, ils ne répondaient pas. Donc l'objectif, nous, c'était qu'il y ait une collaboration directe. Donc effectivement, oui, il n'y a pas eu d'échange.
Sylvie Véran, en octobre 2018, deux mois après la disparition de votre sœur, Emmanuel Macron recevait à l'Élysée le Premier ministre japonais d'alors, Shinzo Abe, et ce jour-là, vous avez réussi à entrer dans la cour de l'Élysée et vous avez interpellé le président de la République.
Merci à vous.
Monsieur le Président, je suis la sœur de Tiffany Véron disparue au Japon.
Nous allons l'évoquer, mais dans un cadre approprié. Parce que je traite les sujets en profondeur, l'ambassadeur est là. Et donc si vous êtes la sœur de Tiffany, vous allez venir voir l'équipe diplomatique et on va traiter les choses comme on les a toujours traitées depuis le début dans cette affaire, madame.
Et vous savez si le sujet a effectivement été abordé avec le Premier ministre japonais ou son équipe ?
Ah oui, alors j'ai été reçue, moi, tout de suite après. Et en fait, Damien était au Japon pile au même moment. Et Shinzo Abe lui-même a appelé l'équipe de la police préfectorale au Japon, de Toshigi, donc la préfecture à laquelle est rattaché Nikko. Et bon, ça n'a malheureusement pas eu d'effet. Même quand les hauts dirigeants de nos pays interviennent, sur place, il se passe un mouvement dans un sens, dans un autre. Mais au final, il y a des éléments d'enquête
En fait, les vrais sujets, ce n'est pas une inaction française ou la police française ou la justice française, c'est vraiment la police japonaise, ces méthodes dont on ne comprend pas bien le déterminisme.
C'est ça. Moi, je vais vous donner un exemple. Damien a assisté à des tests au luminol. Donc, ils ont aspergé la chambre de Tiffen, la chambre d'hôtel de Tiffen, mmh. pour savoir s'il y avait des traces de sang. Bon, bah, on attend toujours les résultats d'expertise. Voilà, la justice française a demandé, je pense, trois fois d'y avoir accès.
Il y a eu des résultats, ça c'est une certitude.
Même, on
ne sait même pas.
C'est, on a, ce n'est pas du sang pour des, il y avait un, voilà, il y a des grandes projections qui sont apparues sur un mur à droite et des petites gouttelettes. Et le seul résultat qu'on a, c'est sur les petites gouttelettes. Ils expliquent, ce n'est pas du sang. Fermez les guillemets.
Mais sur les
grandes
projections, on ne savait pas.
C'est quand même troublant. Ils étaient aussi choqués que Damien quand ils les ont vus apparaître. Hein. Donc,
voilà. On voit que ce n'était pas une mise en scène, effectivement. Mm.
4 années de recherche, vous avez encore un espoir de percer le mystère de la disparition de votre sœur. Je recommande votre récit. Tiffen, où es-tu? Cette enquête étouffante et assez sidérante de la réalité d'une autre culture à laquelle vous avez été confrontée. À la recherche de notre sœur, c'est chez Robert Laffont. Merci beaucoup, Sybille et Damien Véron, d'être venus ce soir sur le plateau de C'est à vous. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Mathieu qui vient accompagner ce soir de Bertrand.
Mais oui, parce qu'un soir sur deux, vous l'appelez Bertrand. Donc, je me suis dit,
donc là, vous voulez me simplifier la vie.
Bah, je suis toujours là pour
mais
vous aider.
Mais quel amour, ce Bertrand. Pardon ?
On mange pas. Sois patient.
Mais, c'est vrai, quand on voit apparaître Bertrand, on mange.
On perd de précieuses secondes.
On va manger de l'actualité.
Oui, oh là là, on va dévorer l'actualité. On commence avec la journée mondiale sans tabac.
Oui, chaque année, c'est le 31 mai. En France, on estime qu'un tiers des Français fument une douzaine de cigarettes par jour en moyenne. Mais une fois qu'on a donné ces chiffres, comme chaque année, quelle dynamique ? Louis Amar et Audrey Payas sont allés interroger le professeur Amine Benyamina, addictologue. Il se réjouit de voir que les politiques anti-tabac commencent à porter leurs fruits.
Les politiques de santé publique commencent à porter leurs fruits. En France, quand même, on fume beaucoup moins qu'il y a quelques années. La politique fiscale a montré son efficacité, c'est-à-dire le prix du paquet de tabac. On a diffusé des choses très intéressantes, par exemple, le remboursement des substituts nicotiniques. On ne le sait pas assez que, par exemple, les infirmiers, les sages-femmes, et que le produit est remboursé, donc pas suffisamment. On a dénormalisé la consommation du tabac, on a ringardisé les consommateurs du tabac. Les lois, par exemple, sur les espaces fumeurs, les lieux de santé sans tabac, un certain nombre de mesures montrent que même dans son espace privé, on a le réflexe de ne pas consommer. Et ça, c'est une vraie victoire en matière de santé publique.
Alors, on a déjà tout dit sur le tabagisme et ses dangers pour la santé, pas pour la planète. Hier, l'OMS a voulu sensibiliser les fumeurs les plus écolos. L'industrie du tabac est l'un des pires pollueurs au monde. Elle est responsable de 5% de la déforestation mondiale chaque année, 600 000 arbres perdus sur 200 000 hectares. L'industrie du tabac consomme 22 milliards de tonnes d'eau par an et émet 84 millions de tonnes de CO2, sans parler des déchets. 4500 milliards de mégots de cigarettes finissent dans la nature tous les ans et peuvent chacun polluer jusqu'à 100 litres d'eau. La production de tabac, ce sont aussi 7000 composés chimiques répandus dans l'environnement. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même, Babette, l'Organisation mondiale de la santé, qui alerte aussi sur les dangers de la cigarette électronique pour la planète.
Ah, merci.
Sacrée consommation de plastique, monsieur Patrick Cohen.
Ah non, parce qu'il me fait la morale depuis tout à l'heure.
Je le voyais depuis le début.
Monsieur qui fume une cigarette électronique, en attendant, il détruit la planète comme les autres.
Comme tout le monde. D'accord. Iban Raïs et Alice Roucouli ont interrogé Marion Cattelin de l'Alliance contre le tabac. Pour elle, l'OMS répond aussi au greenwashing de l'industrie du tabac.
Il faut savoir que l'industrie du tabac pollue de la production à la consommation de nos cigarettes. Elle fait du greenwashing de ses activités. Aujourd'hui, quand elle se verdit, cette industrie, elle devient plus acceptable, y compris auprès des décideurs. Et ça, c'est très dangereux. On pense vraiment que cet argument environnemental, ces conséquences environnementales du tabac, elles peuvent permettre aux plus jeunes de prendre conscience de ce que ça représente, le tabac, et que c'est vraiment quelque chose qui n'a plus de place pour demain, et que les jeunes se saisiront de ça pour ne plus fumer.
À défaut de vous faire arrêter de fumer, d'apprendre que le tabac pollue la planète en plus de vos poumons, les jeunes pourraient être sensibilisés à cette question environnementale, les jeunes qui sont particulièrement visés par l'industrie du tabac. Dernière trouvaille, les puffs Puf, des cigarettes électroniques jetables, puff. Pour une dizaine d'euros, les jeunes peuvent tirer 3 à 600 fois sur ce produit, parfois nicotiné, avant de le jeter, souvent agrémenté d'un goût barbe à papa, coca, pastèque, choco-noisette. On a sondé des lycéens sur la puff.
Des lycéens ?
Pourquoi tu penses que ça marche autant chez les gens de vos âges ?
Je pense avec des différents goûts, parce que c'est un peu comme les bonbons. Et ouais, les gens aiment les bonbons. Il y en a qui trouvent que ça fait plus âgé peut-être, puisque c'est comme les cigarettes, ça fait plus adulte.
Vu qu'il y a de la nicotine dedans, ça, après ça fait un pas vers la clope.
Ça peut être addictif parce qu'il y a plein de goûts et on a envie de tout goûter. Je trouve que certains fument pour le style, surtout devant le lycée. Mais moi j'aime bien les goûts qu'ils proposent. Ou litchi glacé, c'est très populaire auprès des jeunes.
Et pour le professeur Amine Benyamina qu'on a entendu un peu plus tôt, ces produits sont avant tout une manière de faire entrer de futurs consommateurs dans le tabagisme.
Théorie, c'est pour permettre aux jeunes de sortir, mais quand on voit la concentration de nicotine, très peu, le marketing et puis la référence à des sites de réseaux sociaux, on doit en douter beaucoup. Je suis très pragmatique là-dessus. Ma première réaction a été celle de l'interdire. Alors, si le dispositif est difficile à interdire, il faut l'accompagner, mettre des warnings, prévenir les jeunes que ce n'est pas fait pour s'initier, évidemment ce n'est pas le but, mais pour permettre à certaines personnes qui sont en difficulté de pouvoir l'utiliser pour sortir du tabac et de la combustion du tabac.
En France, chaque année, ce sont près de 75 000 décès qui sont imputables au tabagisme.
Des inondations meurtrières au Brésil.
En quelques mois, c'est la troisième fois que des pluies diluviennes provoquent des catastrophes humanitaires de ce genre au Brésil. L'état de Bahia fin 2021, la région de Sao Paulo en janvier dernier, l'état de Rio en février. Et donc cette fois, donc la quatrième en fait, c'est l'état du Pernambouc qui est endeuillé. L'état d'origine de l'ancien président Lula, de très fortes pluies. 3 semaines de pluie en une journée, samedi. Et un bilan catastrophique, 100 morts et des dizaines de disparus, selon un bilan encore provisoire. On parle aussi de plus de 6000 sans-abri après que ces précipitations ont causé des coulées de boue, des torrents de boue qui charriaient des débris et des survivants encore sous le choc.
Que nunca caiu tanta chuva em pouco tempo como aconteceu. O primeiro deslizamento caiu uma poção de barro, então em seguida caiu feito um tsunami.
Eu não estou dormindo, não estou comendo, porque foi uma dor muito grande, uma dor muito grande mesmo. E 40 anos que eu moro aqui. Nunca vi uma tragédia dessa, né?
Isso aqui, esse lado aqui é a casa da minha família, né? Minha irmã, meu pai, minha sobrinha, meu irmão. Tá bem, tá aí nessa situação que a gente tá tudo indo pra não morrer, né?
Face à l'urgence, le gouvernement fédéral a déjà débloqué des fonds, l'équivalent de près de 200 millions d'euros. On a vu aussi le président du Brésil, Jair Bolsonaro, survolant la zone, mais qui n'a même pas pu se poser, tant les sols sont rendus instables.
Fizemos um sobrevoo em parte da área atingida, não conseguimos avançar. Tentei pousar também, mas a recomendação dos pilotos era de que, tendo em vista a inconsistência do solo, poderíamos ter um incidente. Então resolvemos não pousar. Tivemos problemas semelhantes em Petrópolis, sul da Bahia, mais ao norte de Minas. Estive ano passado no Acre também. Infelizmente, essas catástrofes acontecem. Um país continental tem seus problemas.
Oui, il y a eu des épisodes et il y en aura d'autres, c'est sûr. Mais ce qui est surtout reproché finalement aux autorités, c'est l'urbanisme des régions où ces inondations tuent le plus. Les maisons emportées, bâties, regardez, à flanc de colline, des zones de mangroves aussi qui protégeaient à l'origine les habitations et qui ont été artificialisées.
As autorités ne tomem as devidas providências. Vai se perpetuar, vai se tornar uma catástrofe anunciada anualmente. É como a gente diz, olha, eita, está chegando o período de chuva, vai morrer pessoas. Imagine que situação para uma sociedade, que situação para uma população, saber que com a chegada do período chuvoso, pessoas vão morrer.
O Brasil, on reste sur le qui vive, alors que d'autres épisodes de pluie du genre sont prévus dans les prochains jours.
Las Vegas, où le réchauffement climatique révèle d'anciens méfaits de la pègre.
Oui, près de la ville des casinos, on trouve le Lake Mead, réservoir d'eau artificielle en plein désert. On est à 65 km de Vegas seulement, un lac dont le niveau baisse continuellement depuis 40 ans. Seulement voilà, cette baisse du niveau de l'eau laisse apparaître des objets oubliés et probablement des crimes oubliés. Au début du mois, un tonneau métallique est apparu, tonneau qui contenait un corps humain.
Someone had to have a boat, and someone had to, you know,
put someone in the barrel and push them off the boat. None of us have actually have encountered this before, where we're going to have a deceased individual who's been underwater for, you know, upwards of potentially 40 years. The erosion of the metal, if that can give us a timeline on how long that metal would take to erode. Also, some of the sea life that is grown on the barrel, if that is an indication of timeline.
La méthode, l'époque en question. Les experts confirment qu'il pourrait s'agir de crimes de la mafia. Il faudra d'autres analyses pour le confirmer. Mais un deuxième corps a ainsi été découvert. Je vous laisse imaginer les habitants du coin qui découvrent des corps de si vieux cadavres.
I thought it was a bighorn sheep, and we kind of started digging around a little bit. Upon further inspection, it looked clearly like bone. And then we kind of started to move the sand around the skull, just to kind of get an idea of what it actually was.
My fiance's little cousins, they're, you know, they're about 10, 12 years old. It's just something you don't really want them seeing, you know?
I was in disbelief. Like, I did not think that we actually just came upon human remains.
They were never recovered because they drowned in 200 plus feet of water and stuff like that. So they weren't coming back up.
Alors pour terminer sur une note un peu plus légère et de très très bon goût, en attendant les enquêtes et la suite de l'assèchement du lac, des petits malins ont déjà trouvé comment gagner de l'argent avec ces découvertes macabres.
Blaspheme Boutique, a Las Vegas strip shop, is selling what it's calling Lake Mead corpse water. A 2-ounce water bottle put on sale following the recent news at Lake Mead finding the bodies. According to the shop's website, for decades it was rumored that those who crossed the mob ended up at the bottom of the lake.
Alors pour info, ces petites fioles se vendent à $7.77, ce qui fait du 140 euros le litre d'eau vaseuse.
Oh là 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 là.
Je fais des maths.
Bon, j'espère que la découverte à suivre est moins glauque, une découverte archéologique en Égypte.
Oui, pour terminer, c'est magnifique, c'est pas glauque du tout. 250 sarcophages, regardez, et 150 statues découvertes dans la nécropole de Saqqara en Égypte, c'est tout près du Caire. Une équipe d'archéologues qui a découvert des statues de dieux égyptiens, Anubis, Amon, Osiris, entre autres. Une statue décapitée de l'architecte Imhotep, et donc 250 cercueils datant d'environ 500 avant Jésus-Christ.
I have to say that we are once again surprised by the discoveries of the Egyptian team who works, which works in Saqqara.
طيب في كمان تماثيل النائحات. التمثيلين دولت روعة. التمثيلين دولت احنا أول ما نزلنا في المكان وبصينا عليهم أنا عايز أقول لحضرتك إنه كان في رعب لأنه نفس الواحد منا كان بيحرك طبقات البلاستر اللي على الوش بتاعت الوش المذهب ده كان كله طارد من على الخشب. فده النفس بس كان بيحرك الطبقات البصريه فده كان رعب بالنسبه لنا ده كان اكبر تحدي بالنسبه لنا.
Des produits cosmétiques et des bijoux ont également été découverts. Tous ces objets doivent être analysés à présent et seront ensuite transférés au grand musée égyptien qui doit ouvrir ses portes à la fin de l'année.
Merci beaucoup Mathieu Béliard. Si Bertrand est là ce soir, c'est parce que Patrick nous quitte. Donc comme Patrick nous quittait, j'ai voulu compenser en ayant Bertrand le plus tôt possible dans l'émission.
Ça me touche.
Voilà.
Il a été performant.
Oui, là, vraiment.
Mais t'as été un magnifique plan de coupe, souriant.
Souriant, je serai toujours là pour vous. Et ce soir, c'est le grand retour du Conseil de Paris et c'était pas la grande forme.
Oh,
oh.
Voilà un teaser.
Je vous explique le pourquoi du comment au dîner.
Attends, c'est... Pardon ?
Je vous explique le pourquoi du comment au dîner tout
donc
à l'heure.
Donc il y a une explication à cette scène.
À tout ça. Et les retrouvailles entre Rachida Dati et Anne Hidalgo.
Et Valérie Pécresse.
Allez, dans un instant, nos invités, Billy Jenkins, Nelson Montfort, Jakub Joseph Orlinski, qui va nous interpréter, Patrick.
Ah, y a
allez
pas
Patrick,
du lac,
vite Patrick,
il va nous interpréter. Krasniska de Stanislav Morniusko.
Il y est arrivé, il m'énerve. Un jour je l'aurai, un jour je l'aurai.